Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Il est où
là, je ne suis pas responsable de lui non plus.
La semaine dernière,
non.
Il était là.
Vendredi, il était là. Non, c'est jeudi qu'il était là.
Jeudi,
il était là. Et toute la semaine, il était là, sous vendredi.
Vendredi,
hein,
c'est mon anniversaire, il
n'est
pas là.
Et il est où, là, d'ailleurs
où, hein? Ben, j'étais sur le terrain.
Mais où que t'étais?
Sur le terrain. Ah ouais. Ça commence à bien faire.
Alors
parce qu'on veut bien être gentil un peu, mais faudrait voir à pas nous prendre pour des cons.
J'étais sur le terrain pour mon reportage.
Mais il y en a aussi à la télé, des reportages.
Mais non, mais je suis allé prendre des sons.
Toujours des sons, dit.
Mais il prend des sons, mais monsieur technicien.
Mais non, mais des sons pour ma chronique.
Mais dis, il écrit des blagues. Hein.
Ouais, il prend des sons, dit. Tu ferais mieux de prendre des notes sur tout ce qu'on dit. Plutôt, dit, on va pas se faire comme ça l'émission.
Ah,
hein.
Comme dit maman.
Allez.
Oui. Alors, on reçoit qui aujourd'hui?
On reçoit Yolande Moreau.
Ah, comment ça, j'ai pas compris ça.
Article.
On reçoit Yolande Moreau, c'est mon actrice belge préférée.
Oh, bravo, alors que nous, on t'a élevé.
T'étais comme la prunelle de nos yeux, et tu dis c'est Yolande préférée.
De toute façon, Yolande, elle est plus drôle que vous.
Elle est un père de claques qui se perd.
Je vais te dire, mon petit Guillaume, tu n'es plus rien pour nous. Tu n'es plus rien pour nous.
Fini,
tu seras puni. Tu seras puni.
Interdit de venir embrasser Yolande.
Interdit,
ça t'apprendra.
Fini, allez, terminé. Bonjour la France Inter, vous écoutez la Start-up publique et voici les actualités traitées par le truchement de l'humour subventionné. La boutique de l'Elysée vend des t-shirts perlimpinpin et elle est parodiée par une contre-boutique qui vend des t-shirts pognon de dingue. Les produits de la vente sont reversés à une association qui aide les migrants et ce sont des petits gars du Nord qui l'ont créé.
Dès que j'ai une idée pour la France, j'écris sur un papier et je la mets dans ma banane. La banane à idée. Ça, c'est la banane qui va redonner la banane à la France.
Pendant que la France propose le retour de la chorale à l'école, une ville de Belgique propose de développer la permaculture à l'école. De belles courgettes vous promettent une bonne note au troisième trimestre.
Ça, c'est pas possible, ils sont fripés comme des couilles, ces abricots.
La reconnaissance du rôle des animaux durant la guerre avance à grands pas. La question se pose de décorer les chevaux, les chiens et les pigeons qui ont payé de leur vie pour un monde libre.
J'ai le grand honneur de remettre la médaille du courage au lieutenant Charles Boyle et au lieutenant-chef Beurre de Cacahuète.
Lui, s'il lui vient l'idée d'adopter deux chiens, il les appellera Ivre et Virgule.
Ça serait très rigolo. Bon lancement, vous avez bien dormi ce week-end, Charline
Malmaquet. Virgule.
Eh bien, pour ça, je vous offre une belle équipe. À 17h20, celui qui, sur les grands écrans, nous met à chaque fois une énorme claque, le Alexandre Benalla du cinéma français, c'est Hippolyte Girardot, bonjour.
Mais bonjour.
De quoi on va parler?
Eh bien, on va se demander pourquoi faire des films de gauche.
Pourquoi faire des films de gauche? 17h30, il était à Toulouse ce week-end et c'est cohérent. Lui qui prend les gens pour des saucisses, c'est Guillaume Meurice.
Oui, bah oui, c'est vous, c'est bossé aussi ce week-end.
Pas mal.
Moi, je suis allé au grand rassemblement des traders, le Trading Day. C'est un milieu où il y a énormément d'entraide.
Ça, c'est un principe de la finance. Mieux vaut se tromper ensemble que tout seul.
Et ça, c'est beau. On entraîne tout le monde dans sa chute, c'est sympa.
Et enfin, 17h40, si l'on s'en référait uniquement à la qualité de ses chroniques, il s'appellerait Thomas Hacquet. Et pourtant, c'est Thomas Croisière. Bonjour.
Bonjour Alex. Moi, je vais vous parler, pour faire plaisir à Guillaume, d'entrepreneuriat et de cinéma.
Très bien.
Et voici celle qui va repasser tout l'open space au Gibolin. Je vous laisse nous annoncer. Vous êtes...
Je suis Yolande Moreau. Bonjour.
Oui,
on l'aime beaucoup. France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Yolande Moreau.
Merci.
On est tout joyeuse de vous accueillir.
Ça c'est vrai.
Et surtout pour ce film qu'on a adoré qui s'appelle I Feel Good de Gustave Kervern et Benoît Delépine qui sera en salle mercredi. Où votre personnage gère un village Emmaüs, qui existe d'ailleurs, c'est le véritable village Emmaüs de Pau. Et votre frère débarque échappé de Thalasso. Parce qu'il débarque en peignoir. Et là, il y a deux visions de la société qui vont cohabiter, la vôtre et la sienne. Lui rêve de devenir Bernard Tapie, de gagner plein de blé en faisant travailler les autres, avec juste une idée qu'il n'a pas encore, mais il va trouver.
Il manque plus que ça.
Voilà un peu l'idée. Est-ce que ça a été naturel pour vous d'aller jouer dans ce village Emmaüs, parce que vous avez incarné pas mal de rôles sociaux, donc ça paraît assez simple et assez naturel à l'écran que vous incrustiez dans ce décor. Est-ce que ça a été si simple qu'il n'y paraît à l'écran?
En vrai, ouais. Ouais, parce que déjà, il y a une manière très simple d'aborder les choses avec de l'épine et Cairnverne. Donc arriver là-bas, dans cet univers là-bas, ils débarquent pas avec des gros camions et plein d'éclairages. Donc, il faut savoir, c'est l'Emmaüs le plus grand de France avec un mec qui tient ça, qui est génial. C'est Germain. Et ce village est étonnant parce qu'en plus de recycler, etc., ils ont un potager, ils font leur miel, font du boudin, ils font plein de choses. Et les gens qui arrivent, qui ont parfois eu des parcours assez difficiles, peuvent vraiment se reconstruire, peuvent avoir leur petite maison qui reconstruit, c'est étonnant. Mmh. Donc nous, on s'est fondu là-dedans, ils fonctionnent un peu d'une manière à l'artisanat, et de l'épine Cairnverne aussi. Mmh. Et avec ce qu'ils vont raconter, je trouve que le lieu est carrément un des personnages clés enfin de ce film.
Et les gens qui sont dans le lieu, il y a des gueules fantastiques.
Ah ouais,
il y a des acteurs. Oui.
Et l'architecture aussi est formidable, faut le voir.
C'est ce qu'on appelle une utopie concrète, c'est-à-dire que c'est une société qui vit, qui est utopique, parce qu'il y a l'entraide, tout est recyclé, etc. On vit avec ce qu'on a, et ça fonctionne.
Ça fonctionne, et faudrait ça fonctionne pas que, depuis pas mal d'années.
Et oui. Il ne faudrait pas que les gens du jardin, avec ces idées de Bernard Tapie, viennent foutre le bazar dans tout ça. C'est un peu ça l'idée.
Ouais.
Justement, Jean Dujardin aussi, ça a été aussi simple que pour vous de se fondre et à la fois, je dirais, dans la méthode Cairnverne de l'épine, puisque vous dites que c'est assez artisanal, et à la fois dans ce décor, dans ce jus-là.
Eh bien oui, écoutez, je ne le connaissais pas. Et j'ai découvert quelqu'un, justement, complètement, qui arrive à l'heure, qui travaille, qui parle avec tout le monde. Et puis, lui aussi, qui a beaucoup aimé cette aventure, et qui s'est... Oui, complètement.
Et dans la méthode Cairnverne d'Elépine.
Et un bon camarade de jeu, et très bon à l'écran, je trouve, dans ce qu'il incarne. Il avait beaucoup, beaucoup de textes.
Il vous donne à chaque fois des couples fantastiques, c'était Depardieu la fois d'avant.
Complètement.
Alors, vous êtes habitué à tourner avec Cairnverne et d'Elépine. Jean Dujardin, je pense que c'est la première fois, si je ne m'abuse. Est-ce que là aussi, ça a été une évidence ou il a dû un peu s'adapter? Comment vous l'avez vu, sous votre regard?
Moi, ça me semblait un peu au départ, je me demandais, honnêtement, avant de tourner, je ne me le demande plus. Oui, je pense que d'abord ils se sont rencontrés, je crois que lors d'une soirée bien arrosée, à ce que j'ai pu comprendre. Et ils ont tapé dans la main, mais 5 ans avant. Et là, moi, ça me semble vraiment le choix très judicieux, de nouveau très très bien vu de Benegus, comme d'une manière générale quand ils rencontrent leurs personnages, parce que par exemple toute la clique qui joue, ceux qui vont à Bucarest, ce sont des comédiens.
Oui, parce que l'idée de Jean Dujardin amène des gens à Bucarest. En 3 petits points, on n'en dit pas plus.
Ah oui, c'est mieux de te piquer. Il faut aller voir le film.
Je pense que là, il y a eu une projection au village Emmaüs, devant tous les acteurs qui ont tourné, les figurants, etc. Vous y étiez à cette projection?
Oui, oui. Alors, c'était dingue.
Comment c'était ce moment-là, alors?
C'était dingue parce qu'ils étaient tellement heureux aussi de ce retour, qu'on vienne. Alors, ils avaient fait, dans un endroit où on a tourné, ils ont mis, je crois qu'il y avait quelque chose comme 500 chaises, encore avec le prix. Il y en avait même avec des fauteuils. Moi, je me suis démerdée, j'ai pris un fauteuil.
Oui, c'est le matos du village d'Emmaüs qui a été disposé.
On a eu malheureusement un écran qui était un écran gonflable, je crois, un grand.
C'est très rare.
Mais à un moment donné, ils ont dû, pour mettre l'infrastructure pour le groupe, donc Moussé Hakim qui faisait un concert après.
Oui, de groupe Zelda.
Ils ont dû abaisser l'écran. Et il y a une petite fille qui l'a pris pour un truc pour sauter, là.
Un trampoline.
Un trampoline. Ouais. Et donc l'écran était un peu ce qui là-bas, bon, comme on dit chez nous en Belgique.
C'était de travers. Mais
le film était tellement bien. Moi, j'ai voulu assister à cette projection-là, avec l'écran qui était un peu esquive, lavabo. Il y avait une telle ambiance dans la salle, c'était formidable.
Ah, c'est bon, ça fait tellement longtemps que j'ai plus entendu cette expression.
Ils font la musique du film, faut le
dire
aussi.
Bien sûr, oui, bien sûr, de Zebda. Donc, il y a évidemment Yolande Moreau, Jean Dujardin, il y a Joe Dahan, Lou Castel, Jean-Benoît Hugues, Jean-François Landon, Jana Bitnerova, Xavier Mathieu, Elsa Foucault et Marius Bertram. On les cite tous, ils sont fabuleux. I Feel Good, on aime tellement. Là, j'en ai oublié de ce que c'est comme disque. Ah, oh, ben on me dit qu'il y en a trop de 20 secondes. Alors on a encore 18 secondes
ensemble. Qu'est-ce que vous allez pouvoir raconter pendant 20 secondes?
Plein de choses. Il y a, Yolande Moreau, elle a aussi participé à l'album Les Gens du Nord, qui est sorti le 31 août.
Ça a l'air très bien.
Exactement. Et donc là, on parle de musique, donc ça tombe bien, c'est cohérent. Allez, on écoute. Heads burning down the house sur France Inter.
Oh là là,
bien sûr, you're welcome. You're everybody, you're welcome. One again with Yolande Moreau, famous actress for the movie I Feel Good, Gustave Kervern and Benoît Delépine. Qui sera en salle Wednesday, mercredi. pour entourer Yolande Moreau.
Eh bien, Hippolyte Girardot, Guillaume Meurice et Thomas Croisière.
Beautiful team.
D'apparition, a very beautiful team.
Breaking news.
Vous savez que la faiblesse attise la haine et vous savez très bien que dire que vous chiez dans votre froc dans
le journal. Presque 17h17.
Oh non! Je déteste la vulgarité. Ah, la prochaine fois que je vous y prends, je vous lave la margoulette avec du savon.
Et on commence par les titres.
Ce week-end, Marcel Campion, celui qu'on appelle le roi des forains, a suscité la polémique avec des propos homophobes visant en particulier la mairie de Paris.
Oui, Marcel Campion, il a moins de problèmes avec la grande ronde de roue qu'avec la petite rondelle.
Lors d'un déplacement en Corrèze, François Hollande a encore taclé Emmanuel Macron.
Et François Hollande, il met tellement de temps à envoyer des tacles, on ne sait pas s'il prépare la présidentielle 2022 ou le mondial 2022.
Est-ce qu'il y aura des brèves?
Eh bien sûr, parce que les brèves, c'est pas pour les pédés. Marcel Campion sort de ce corps.
Eh oui, l'affaire Marcel Campion a donc fait réagir ce week-end.
Oui, au point que l'intéressé lui-même est allé sur LCI pour s'expliquer. Il a tenté ce fameux argument « j'ai des amis gays ». Mais il a fait un petit lapsus.
Mes amis homophobes vont se déclarer cette semaine.
Eh oui, tous ses amis homophobes vont venir le soutenir. Et ça va pas. Quand c'est ça veut pas, ça veut pas. Quand on n'a pas l'habitude, on n'a pas l'habitude.
Autre déclaration polémique, celle d'Eugénie Bastier.
Sur France Inter, à propos du mouvement MeToo ce matin, elle a expliqué qu'elle s'érigeait.
Je m'érige contre la victime victimisation excessive en disant la main aux fesses n'a jamais tué personne.
Mais c'est vrai, la main aux fesses n'a jamais tué personne. Oui, c'est vrai ou pas?
C'est vrai ou pas, hein? C'est vrai. La main aux fesses n'a jamais tué personne. Donc selon Eugénie Bastier, si on veut se plaindre d'être victime, il faut être mort. Ce qui risque de faciliter la vie des gens au commissariat.
Politique française.
Laurent Wauquiez et Marine Le Pen se défilent. Moi, j'y vais.
C'est ce qu'a dit Nicolas Dupont-Aignan qui conduira une liste d'unions aux européennes.
Le panache du gars, c'est beau. Ouais, le général de Gaulle à côté, c'est un petit joueur.
C'est vrai. Budget 2019, le gouvernement annonce 6 milliards de baisses d'impôts pour les ménages. Et le gouvernement a également annoncé que 4164 postes vont être supprimés dans la fonction publique.
La chance de ces 4164 fonctionnaires, c'est qu'ils devront payer moins d'impôts sur le travail qu'ils n'auront plus.
Retour sur des propos tenus dans notre émission la semaine dernière.
Et oui, à votre place, Yolande Moreau. Il y avait Laurent Ruquier la semaine dernière. Guillaume Meurice avait fait un petit reportage sur Éric Zemmour et à la fin, bon bah, il l'a remercié quoi.
Merci Laurent pour la découverte. Ah, puis surtout, merci de continuer sur votre lancée parce qu'on attend le prochain livre de Charles Consigny avec grande patience.
Oh non, ne les comparez pas quand même.
Oh non, on va pas les comparer quand même. Mais ça, c'était la semaine dernière parce que samedi soir, bah, Charles Consigny a fait une petite sortie.
C'est presque plus facile de réussir quand on est fils d'immigrés noirs et pédés que quand on est fils de Français de souche, entre guillemets, blanc et hétérosexuel.
Et voilà, oui, je savais voilà. Que la science avançait, mais de là à faire le premier clone avec Éric Zemmour, c'était idiot.
Oui. People toujours, oui. Michel Polnareff pourrait sortir un album surprise le 30 novembre.
La vraie surprise, ce serait que Michel Polnareff aille chez le coiffeur d'ici le 30 novembre.
Sport, le champion du monde de foot français et Benjamin Mendy s'est vu suspendre son permis de conduire pour excès de vitesse par la justice anglaise.
Oui, entre Lloris et Mendy, l'équipe de France, t'as un peu l'impression que c'est le prochain casting de Fast and Furious.
Sport toujours, l'Olympique Lyonnais dénonce un tract odieux distribué par ses propres supporters et qui disait ceci, Marseille est une ville où règne le sida.
Oui, on ne savait pas que Marcel Campion était supporter de l'Olympique Lyonnais.
Allez, des brèves.
Des brèves, un restaurant américain donne du cannabis aux homards pour les anesthésier avant de les faire bouillir. Doc Gynéco s'est peint en rouge depuis.
Allez, la dernière.
Et la dernière au Canada, un homme perd 95 élections et se lance dans une nouvelle campagne électorale. Apparemment, chaque pays a son François Bayrou.
France Inter, il est 17h25 et Yolande Moreau nous accompagne. On va aborder avec vous ce premier sujet. La boutique de l'Élysée fait l'objet d'une parodie, une contre-boutique baptisée enlisée.fr et qui vend des objets très dérivés tels que des t-shirts floqués qu'ils viennent me chercher ou des mugs je traverse la rue pour trouver du boulot. C'est la boutique du ruissellement, c'est comme ça qu'elle est baptisée, créée par des gens du Nord au profit d'associations qui viennent en aide aux réfugiés.
Hasta siempre. Avec le t-shirt de DJ. Hasta siempre. Avec la casquette du chien, la station B. Avec le poster du chien, la station B.
Il y a aussi la couette du Tché, les chaussettes du Tché, ça marche pareil. C'est les Fatal Picard avec leur chanson Asta XXL. Alors, la France, là, on dirait, est divisée en deux. Parce qu'il y a ceux qui achètent à la boutique de l'Élysée pour sauver le patrimoine. Pour sauver le patrimoine, on achète des t-shirts à 55 euros. Et ceux qui achètent à la boutique enlisée.fr pour sauver les réfugiés. Et là, je me dis, Yolande Moreau, est-ce qu'il n'y a pas là une métaphore du film I Feel Good de Gustave Kervern et Bodo Delépine? En ce sens où votre personnage qui gère le village Emmaüs, ce serait la boutique enlisée.fr. Et Jean Dujardin, c'est la boutique de l'Élysée avec ses goodies et son bracelet égalité à 250 euros. Rappelons-le, on ne se lasse pas.
C'est bien vu, je trouve. C'est bien vu, le sujet. Oui. Ah, c'est vraiment ça, c'est la confrontation de deux visions du monde. Et puis voilà, moi je trouve ça bien vu du point de vue de Delépine et Kervern, parce que c'est parce que des fois avec ce qui nous tombe dessus, avec le désenchantement de la gauche et là, on se demande s'il n'y a pas une troisième voie qui est possible. Mmh. Et ce film nous parle de tout ça avec beaucoup de petites strates différentes. Il nous parle d'écologie, de circuits courts, de décroissance quelque part.
Même de la robotisation, il y a plein de...
Oui, il y a plein de choses.
Plein de choses, effectivement. Est-ce qu'il faut choisir entre le patrimoine et les réfugiés? entre ces deux France, comment on fait? Vous allez dans quelle boutique, vous, Yolande?
J'ai une idée, moi.
Vous avez une idée.
Sinon, ce côté arroseur arrosé, c'est-à-dire s'emparer de la chose, parce que il y a une propagande de l'Élysée, et de retourner la propagande.
Ah ben c'est génial. C'est vraiment génial d'avoir fait ça.
C'est aussi ce qui ferait dans le
savoir
film,
quels objets. Ouais. C'est amusant.
Alors, je sais qu'ils nous écoutent parce qu'ils nous ont écrit. Donc, si vous avez des propositions à lui faire.
Bah, tout de suite, j'ai lu le papier tout à l'heure. Je me dis, oh.
Vous avez des idées
hein? Non, pas tout de suite. Moi, je suis pas allée rapide.
La Voix du Nord a fait un papier. Thomas Croisier.
C'est surtout une très bonne idée et ça prouve que notre président a réussi à lancer deux jeunes créateurs sur de la création d'entreprise. Puisque, en créant l'enlisée.fr, eux-mêmes participent à la Startup Nation et leurs produits sont très drôle.
Et ça, le capitalisme récupère toujours.
Ouais, bien sûr. Effectivement, ils ont dit, nous, on nous a dit qu'il fallait être des entrepreneurs, on l'a fait. Voilà. Donc c'est l'arroseur arrosé. Ils disent aussi, nous souhaitons participer à restaurer la dignité nationale plutôt que d'offrir un ravalement de façade à un vieux palais. Dernière question à ce sujet, Yolande Moreau. Cette boutique de l'Élysée avec les mugs, avec presque, je sais pas si on peut dire les armoiries, mais c'est un peu ça. Il est un peu mégalo, Emmanuel Macron, vous trouvez? Est-ce que ça fait partie du côté un peu...
Moi, j'ai une question belgo-belge. On a tous eu des boîtes de biscuits avec le roi.
J'en ai plein, moi.
Ah ben voilà.
Moi aussi, j'ai
plein.
J'en ai plein.
Il part derrière.
J'ai Léopold, j'ai tous. Baudouin, Fabiola.
Donc, c'est une dérive monarchique, alors.
Je les ai. C'est mes pommes séchées dedans.
Cette boutique, c'est une dérive monarchique, un peu.
Bah, ça pourrait l'être, en tout cas. Moi, je trouve ça tellement ludique comme idée. Puis ça détourne, c'est ça qu'on demande. On demande de ce que j'aime bien avec le. Je reviens avec de l'épine.
Mais allez-y, bien sûr.
On rit avec des choses que c'est un film rageur et on rit. Là, une boutique comme ça, pour moi aussi, il y a de la rage derrière et puis c'est drôle. Je voudrais bien un service, moi.
Mais dans le film, il y a aussi un produit dérivé avec cette assiette où on vous voit avec votre frère pour servir le potage.
Qu'allais-je dire à ce sujet? J'ai oublié, ça va me revenir.
Faites la transition.
C'est que ce n'était pas pertinent, alors c'est pas grave. je voulais dire que les boîtes de biscuits avec le roi et la reine, etc., c'était pas cher et vendu en supermarché. Et c'était vraiment accessible à tout le monde.
Bah, j'allais dire une marque et je me suis arrêtée à temps.
On la connaît tous.
Allez, Hippo, on attendait.
C'était pas bon d'ailleurs.
Ça dépendait. Si, non. Les cigarettes russes, c'était pas mal.
Les cigarettes russes, et alors sur un gros bas de chocolat.
C'était pas pleurer, il faut pas les choisir. Ils vont pleurer, les Belges là.
Belle boîte en fer.
Nostalgie.
Oui, mais ça fait. Voilà, c'est accessible. C'est plus démocratique alors qu'on est en monarchie. C'est quand même bien. Bon, bref. Hippolyte Girardot.
Allez, j'y vais. I feel good. Ah, Yolande Moreau, hein. C'est pas avec un triste américain que vous allez nous embobiner. On vous a reconnu. On sait que vous faites des films de gauche. Et toujours des films qui ont du sens civique et politique et philosophique, voire par-dessus tout ça, bien sûr, poétique. Des films qui majoritairement insistent sur la solidarité, la fraternité, l'égalité. Des films qui donnent une image puissante, radieuse des femmes, qui nous laissent penser que le lendemain chantera plus fort que les aboiements d'aujourd'hui. Des films qui sont des manifestations en soi, bien plus crédibles que certaines pétitions, dont je ne parlerai pas ici. Des films, bref, qui veulent changer notre regard sur le monde. Bref. Évidemment, des films de gauche dans un monde de plus en plus à droite. Et c'est pas la peine de se déguiser pour nous faire croire le contraire, hein. On reconnaît la chanson. Eh ouais, la ruse est grossière. Titre américain, affiche hideuse avec un gros lard en peignoir blanc et slogan bien MEDEF. Il n'y a pas de grand pays sans grand patron. Ah, je me suis dit, tiens, enfin un film de droite. Et avec qui? Yolande Moreau. Bah dis donc, le monde change. Si Mademoiselle Moreau fait des films de droite, alors Macron, président, à vie, évidemment. Je vais voir le film, patatras. Déception, amertume. Sans surprise, vous êtes apparu au milieu de ce village Emmaüs avec votre pull acrylique, votre jogging acrimonique, des crocs en plastique aux pieds, cheveux en bataille de paille et discours révolutionnaire en bouche. Je me suis dit, ils m'ont bien niqué encore une fois. V'là un film de gauche, allez, malin. Et moi qui y croyais quand même. Ah, Yolande Moreau, le pire, c'est pas d'être de gauche, non. Le pire, c'est de continuer à l'être. Et vos complices, la Kerven et de l'Épine, les Lagarde et Michard de l'exception culturelle française, ils ont quand même une tendance très naturelle vers le pire. Moi, je me souviens de Mabout avec Depardieu, période pré-Kim Jong-un, qui parcourait la France en moto pour retrouver ses anciens patrons qui avaient oublié de le déclarer. La métaphore était grossière, mais on voyait bien l'allusion à l'époque au cadeau de Sarkozy au patronat qui avait baissé à ce moment-là, les cotisations patronales. N'oublions pas Le Grand Soir, qui racontait l'histoire de deux frères Dupontel en commercial en dépression, et Poulvord en Pocachien en Pocachien, qui apprenaient que leur père n'était pas leur vrai père et décidaient de le chercher. N'était-ce pas alors l'allégorie de ce peuple de gauche, cherchant éperdument la gauche dans le quinquennat Hollande, hein? Et aujourd'hui, ce « I feel good » avec Jean Dujardin, et vous bien évidemment, en loser qui veut devenir winner en rendant les gens beaux. La beauté entraînant par contamination, voire ruissellement, évidemment, le bonheur. Ce n'est pas le titre américain qui nous empêchera de penser qu'il s'agit là de l'hypotypose percutante de la théorie du ruissellement d'Emmanuel Premier. Encore une fois, voilà les Sodome et Gomorre des intermittents du spectacle n'ont pas hésité à faire à nouveau un film de gauche. Avec votre complicité active et récurrente, hein, votre participation étant le dénominateur commun à toutes ces œuvres, faut bien le dire. Alors, I feel good, I feel good, d'accord, d'accord. Mais je vous le demande, Yolande Moreau. Vous en avez pas marre de faire des films de gauche? Mais à quoi que ça sert? Remarquez, en même temps, cette opiniâtreté vous honore. Voilà, parce que avec votre ténacité, on finirait pas à croire que ça peut marcher, la gauche. D'ailleurs, je pense que notre précédent chef d'État aurait mieux fait et mieux réussi s'il s'était fait appeler François Yolande. Voilà. Et même mieux, François Yolande Moreau. Et beaucoup mieux encore s'il avait été une femme. Voilà. Mais comme on le disait, à la fin d'un vrai film américain, pour le coup.
I'm a man. Well, nobody's perfect.
Hippolyte Girardot, merci pour cette belle chronique.
Et pourtant, je cherche un rôle d'une vraie salope.
Le message est lancé.
C'est le message est lancé.
Et la question, vous n'en avez pas marre des films de gauche?
Ça dépend ce qu'il y a, comment ils sont faits. Je réponds sérieusement. Là, moi, j'aime bien. J'aime bien quand un film raconte quelque chose, mais je suis une femme de luxe, j'aime un peu de tout. Je dis, une vraie salope, ça me plairait bien, moi.
Vous étiez excellente dans la pub pour la BNP, par exemple.
Ah oui. J'aime ma banque. C'était pas vous,
J'aime bien, je regarde, je sais quoi, cette histoire.
On comprend avec Gad Elmaleh.
Yolande Moreau avec nous et Feel Good, c'est au cinéma mercredi. Mercredaille. Ouais, carrément.
Mercredi.
I'm
Pascal Danaé, mon Jody, c'est un membre de Delgrise, c'est du créole, sur France Inter, par Jupiter, Yolande Moreau avec nous, non seulement à l'affiche de I Feel Good, le film de Gustave Kervern et Baudonné Lépine, qui sort en salle mercredi, et vous venez de réaliser le clip Crocodile de Féloche.
Oui, qui sort maintenant, son disque sort là.
Ouais. Et donc on peut voir le clip par exemple.
On peut voir le clip Crocodile.
Remettez-moi ces consonnes dans l'ordre.
Écoutez Féloche qui chante divinement bien.
Féloche qu'on aime beaucoup. Et puis bien bonne nouvelle, vous remontez sur scène au théâtre du Rond-Point pour dire Prévert.
Prévert avec Christian Olivier. Enseignement des têtes raides.
Des têtes raides. Ce sera du 15 janvier au 8 février. Ouais. Et ce sera le 8 février, rien que pour m'embêter. Guillaume Meurice.
Oui, eh ben, je vais fêter un anniversaire aujourd'hui. C'est l'anniversaire à la crise de 2008. Ouais. C'est bien ça, elle a 10 ans. L'âge de tous les possibles, comme dirait Roman Polanski. Il y a 10 ans, vous vous souvenez, Hippolyte avait encore des idées de chroniques qu'on pigeait. C'est vrai qu'il c'était un moment, quoi. Ça nous rajeunit pas. Mais stop à la déprime. Pour fêter cet anniversaire de la crise, je suis allé voir des traders, parce qu'ils sont un petit peu concernés par l'idée. Et c'était le Traders Day, hein, qui ressemble quand même vachement au grand forum sur les bienfaits de la cocaïne au milieu professionnel. Alex travaille avec Thierry Ardisson, donc c'est pour ça qu'il rigole. Hein. C'est pas lui qui va me contredire.
Salut mon patron.
C'est vrai que quand vous rentrez au bureau et que vous secouez votre veste, bon, bah, ça nous met en forme un peu tous pour l'après-midi. Alors, s'il vous plaît. Oui, c'est une image. Alors, ne soyons pas trop caricatural. Hein. C'est pas le genre de la maison. Soyons précis sur le monde de la finance. Ce premier participant, qu'est-ce qui lui plaît dans ce domaine?
Moi, c'est les échanges. C'est-à-dire que...
Échange d'argent?
Non. Mais c'est là, en fait, c'est que, par exemple, un peintre, il va échanger sa peinture, il va échanger son savoir. Moi, mais c'est un peu pareil, sauf que nous, on part de l'argent.
Voilà, il y a un côté Van Gogh, il y a un côté Picasso, mais on remplace évidemment la peinture par du pognon. Il y a même un peintre qui s'appelle Monet. C'est quand même un petit peu un signe. Il y a un lien entre l'art et la finance. Le trading, je dirais, c'est avant tout une belle aventure de solidarité.
Le trading, c'est pas la concurrence. Bien sûr, on a des concurrents, mais c'est le but, c'est on est ensemble, on est un groupe. Crescendo Trading, par exemple, c'est un groupe et ils vont plus haut ensemble. Mais c'est de l'humain. C'est de l'humain.
Putain, c'est beau. Excusez-moi, c'est parce que je suis hyper sensible, ça me fait chialer. On dirait du Patrick Fiori. Moi, j'adore, c'est vrai, j'adore les aventures humaines. En 97, j'ai acheté l'album des Enfoirés. Mais je suis vraiment un humaniste, comme on dit. Je suis contre le fait qu'on jette le discrédit sur des humains sous prétexte que leur kiff, eh ben, c'est de rouler en Porsche et se taper des call girls ukrainiennes sur des parkings de casino. Ne soyons pas caricaturales, restons, je dirais, dans la nuance. Il faut arrêter de voir le trading comme quelque chose de pourri.
Aujourd'hui, le trading et le monde financier en général, il a une très mauvaise image. On pense à, on régule l'économie, manipulation d'argent ou ce qu'on veut, mais c'est pas que ça. Hein. C'est aussi, ça sert à fluidifier. Il y a des aspects positifs derrière.
Est-ce qu'on peut fluidifier en spéculant sur des matières premières, par exemple?
À ce niveau-là, après, chacun a sa morale et à son éthique, chacun fait ce qu'il a envie de faire.
Voilà, c'est chacun son éthique, chacun sa morale. Moi, je dirais chacun est libre. Moi, par exemple, j'aime bien aller chercher des champignons dans la forêt. Bon, là, bah, c'est mon truc. Si ta passion, c'est plus de déclencher une famine en Afrique, bah, je dirais, qui sommes-nous pour juger? Faut être libre dans la vie. Par exemple, t'es Goldman Sachs, tu te dis, tiens, j'ai envie de spéculer sur la dette grecque. Ben voilà, c'est ce qui s'est passé. Ben moi je dis c'est ok.
Le problème de la Grèce, c'est qu'il y a une grande banque d'affaires internationale qui a vendu des produits qu'il devait prendre.
Mais qu'est-ce qui justifie que Goldman Sachs les a maintenus et enfoncé la tête sous l'eau?
Parce que on leur a commandé des produits, donc est-ce que c'est leur faute? Est-ce que c'est la faute de ceux qui ont commandé les produits?
À votre avis?
Je ne suis pas du tout cette histoire-là.
Non, c'est vrai, quand tu bosses dans la finance, t'es pas au courant.
Mais on dirait un humoriste qui parle de Dieudonné.
Je connais pas la personne. Non. Quand tu bosses dans la finance, l'histoire de la Grèce, c'est un truc qu'on t'en a pas parlé. T'as pas entendu parler, ça a passé inaperçu. Goldman Sachs, à mon avis, il pensait que je parlais de Jean-Jacques Goldman. Hein. Donc là, peut-être j'ai été, moi, trop technique et trop tourné vers le passé. Revenons, s'il vous plaît, à la réalité du moment.
Là, on attend une prochaine crise, puisque ça fait 10 ans que c'est pas arrivé.
Donc ah oui, donc là, on sait qu'il va y avoir une crise.
On attend depuis un an ou deux. Les institutionnels attendent, effectivement, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Oui.
Est-ce que c'est pas un peu flippant, ça?
Non, c'est pas flippant. C'est que ça permettra à des gens de trouver de bonnes opportunités pour revenir sur les marchés.
Et ben voilà, mais il faut positiver. Pensez printemps, les amis. Il y a des gens qui vont se faire virer de leur boulot, ils vont perdre leur famille, leur maison et se suicider. Et ça permettra de relancer le marché des pompes funèbres, par exemple. Investissez chez Roc Éclair, à mon avis. Belle leçon de vie, quand même, que nous donne ce trader. Et surtout, un aspect nuancé de la finance internationale.
Comme toute chose, ça a ses côtés positifs et négatifs.
Le côté positif, c'est que vous faites de la thune, et le côté négatif, c'est que ça fait crever des gens.
Ouais, vous avez pas tort, mais c'est à cause, c'est des dérives tous les États en fait essaient de réguler au mieux la bourse. Du coup, on peut qu'espérer un monde meilleur.
Ah bah c'est bon. Ah bah d'accord, c'est bon. Si tous les États essaient de réguler la bourse, je pense à mon avis on est sauvé. C'est vrai que la dernière fois qu'un président français s'est attaqué au monde de la finance, bah a priori ça s'est plutôt bien passé. Avec Macron, on est bon aussi. On peut continuer tranquille à se faire spéculer.
Merci Guillaume Meurice. Bah oui, mais faut pas oublier de fluidifier avant.
Ah,
c'est
il faut fluidifier.
Le monsieur l'a dit. Spéculer. J'ai bien noté. Merci beaucoup Guillaume.
Je vous en prie.
Voilà. Bon bah.
Moi je suis là pour vous rassurer. C'est aussi à un moment donné.
Opportunité. Il y aura des opportunités. Ouais. C'est tout ce qui compte.
Donc on attend la crise. Ouais. Avec le sourire.
Positiver un peu.
Bon, Yolande Moreau, on va continuer à faire des films de gauche. Alors bon, on va aborder ce deuxième sujet avec vous, Yolande. La permaculture à l'école. Car l'idée a germé en Belgique et elle est désormais appliquée dans une vingtaine d'écoles au sein d'une même commune qui a décidé d'en faire une activité scolaire. Les enfants apprennent ainsi la patience, le rôle des insectes et le partage.
Malgré les efforts de l'éducation nationale, certains parents préfèrent se tourner vers des méthodes alternatives.
Voilà, c'est ça. Mange de l'herbe, c'est très bien. C'est super, c'est très bon c'est pour bon. L'éducation, ça, la nature.
Nous sommes allés à la rencontre de Corentin et Lucas, qui viennent d'ouvrir leur école à enseignement aménagé.
Disons que le système scolaire est vraiment imposé aux enfants dans un but de résultat. On n'est pas du tout sur l'humain. Or ici, dans cette école, c'est 100% naturel, 100% voilà. Instinctif.
Oh non, il y a encore un chat qui a chié.
Oh non, ils font chier ces chats, ils arrêtent pas de chier là. Mais qu'est-ce qu'on leur donne à becter, Mimounette?
C'est le palmacho. Ça se passe à Flémal, en Wallonie. Et les produits du potager et de la permaculture sont distribués aux associations aussi pour les plus démunis. Alors on a choisi ce sujet, Yolande Moreau, parce que ce week-end, en rentrant en Belgique, je lis Le Soir, il y a une grande interview de vous. Et l'entretien commence comme ça. La journaliste écrit « Entre la cueillette des pommes, les prunes à ramasser, les tomates à sécher, les compotes et les confitures à faire ainsi que les semis de l'hiver à préparer, Yolande Moreau a un début de rentrée très chargé.
Mais quelle image on donne de vous chez nous?
Ah bah dis donc, bah je pratique aussi un peu mon métier.
Donc on s'est dit que vous étiez calé là-dedans. Première question, le potager et la permaculture, ce qui est quand même particulier, ça a autant sa place à l'école que le théâtre, la chorale, ça apporte beaucoup de choses.
Plus on apprendra aux enfants jeunes à respecter la terre. On n'est que de passage, donc il y a un respect à avoir. Puis la permaculture, c'est absolument passionnant. Une fois qu'on fout son nez là-dedans, on voit l'immensité des choses qu'on ne connaît pas. C'est comme dans le cinéma, je trouve. C'est-à-dire... Et c'est sans fin. Et ouais. C'est absolument fascinant.
Vous avez appris comment dans les bouquins?
Mais moi, avant, j'avais toujours eu un potager, mes méthodes classiques, bêchage, machin, belle rangée, des trucs. Et puis, à un moment donné, je deviens plus âgée, je trouve que la terre est trop basse, et donc je vais arrêter. Et là, je tombe sur le premier bouquin, c'était jardiner sans bêchage, sans arrosage, enfin, sans rien. Foot,
jardiner
quoi.
Pour les
génial. Ça, c'est bien pour moi. Et donc, de fil en aiguille, voilà, je m'y suis intéressée.
Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, chez vous, dans votre jardin, votre potager, la permaculture, c'est quand on utilise toutes les choses naturelles et que...
On donne le principe aussi, enfin, c'est un des principes, parce qu'il y en a beaucoup, c'est que les animaux travaillent à votre place et de respecter la terre. Mm-hmm. Et donc, on couvre, par exemple, tout le temps la terre pour donner à manger aux vers de terre, aux cloportes, qui eux, et alors on obtient une belle terre friable. On fait des buts, moi je travaille assise pour épargner mon dos. Et donc j'ai des buts dans lesquels sont enterrés du bois mort. Mmh. Et bien, mais la permaculture, il y a plein de manières de la faire. C'est basé sur l'observation, alors ça déteint philosophiquement.
Oui.
Un petit peu.
Vous dites ça remet les pendules à l'heure. Vous dites ça veut dire quoi?
Mais déjà le fait de la campagne, moi j'aime bien, c'est vivre plus avec les saisons, on est plus en contact avec l'extérieur et.
Parce que dans le cinéma, qui paraît tellement loin de tout ça, vous risquez de perdre pied.
C'est une femme de luxe.
C'est vrai, quand on pense femme de luxe, il y a Elizabeth Taylor et vous. C'est vraiment les deux qui
Donc la permaculture à l'école, bonne idée.
Ah ouais?
Génial, c'est magnifique.
Ouais, c'est chouette. Super. Mais alors, on fait quoi, la chorale ou la permaculture à l'école? Qu'est-ce qu'on choisit?
Bah, on peut faire les deux, je pense. Ouais, c'est ça.
On peut faire la permaculture en chantant. Jean-Michel Blanquer fait la permaculture des tomates et faire des semis
de terre
pour l'hiver.
C'est Jean-Michel
Jardin.
C'est magnifique cette chorale.
Restez c'est une avec chorale nous, vous êtes sur France Inter, il est 16h47.
Yolande Moreau, à côté de vous, il y a Thomas Croisière.
Par Jupiter présente. Le cinéma de Thomas Croisière.
Ah Charline, I feel good de recevoir Yolande Moreau qui campe Monique dans le film de Kerverne et Delépine. Monique dirige une communauté Emmaüs et voit son frère Jacques, non pas le curé endormi qui doit sonner les matines, mais Jean Dujardin, débarquer avec une obsession de l'époque, trouver l'idée qui le rendra riche. Peu importe le projet, la richesse est la fin en soi, et tant mieux puisque la France a besoin de jeunes Français qui ont envie de devenir milliardaires. L'occasion pour moi de vous proposer un top 5 subjectif sur l'entrepreneuriat au cinéma. Numéro 5.
Nous avons de l'argent tous les deux. Toi tu représentes le patronat, moi le capitalisme. Nous votons à droite. Toi, c'est pour préserver la famille. Moi, c'est pour écraser l'ouvrier. 10 couples chez toi, c'est une réception. Chez moi, c'est une partouze. Et le lendemain, si nous avons des boutons, toi, c'est le homard, moi, c'est la vérole.
Comme dans les grandes familles où Pierre Brasseur affronte Jean Gabin, deux conceptions du monde s'opposent dans I Feel Good. Celle de Monique, qui veut bien admettre que le communisme a fait des millions de morts, mais pour qui le capitalisme, à terme, c'est 7 milliards de morts, sans compter tous les animaux qui seront morts avant, face à celle de Jacques, apôtre du dieu argent, qui pense que tout ce qui ne nous tue pas nous rend moins morts. Numéro 4.
En Amérique, 1% des gens détiennent 50% des richesses, 5 000 milliards de dollars. Pour un tiers, c'est obtenu par le travail. Les deux autres tiers proviennent d'héritage, de l'intérêt des intérêts qu'on verse aux veuves et à leurs gosses. Et moi, je ne crée rien. Je possède.
Comme dans le Wall Street d'Oliver Stone, où l'ultra-libéral Gordon Gekko fait la leçon au jeune Bud Fox, Jacques est plein de théories sur le business issues de livres de Bill Gates ou Bernard Tapie. Pour lui, la France est un grand pays, et pas de grand pays sans grand patron. Et ce grand patron, bien évidemment, c'est lui. Lui qui n'attend pas d'avoir une idée pour monter un business, et qui pense surtout que si les Russes boivent de l'alcool à 90, c'est parce qu'ils ne savent pas que le champagne existe. Numéro 3.
Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes.
N'est-ce pas Alex? Tout comme Al Pacino dans Scarface qui déclare, attention, tentative d'accent sud-américain. J'ai des mains faites pour l'or, elles sont dans la merde. Jacques veut tout quitte. Tout veut tout. Quitte à escroquer ses proches et à les enculer, pour reprendre un terme cher à Tony Montana. Sans que cela lui pose d'ailleurs de problèmes moraux, Yolande. Numéro 2.
Donc salut, nos gens sont terriblement pauvres et...
C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres.
Et les riches, très riches. Oui. Louis de Funès, en Don Salluste de la folie des grandeurs, résume en une phrase lapidaire 50 années de conférences du forum de Davos. Davos, où comme le dit Jacques, ils bouffent tous à la même raclette. J'ai beau refuser les théories du complot, mais Davos fut créé en 1971, la même année que celle de la sortie du film de Gérard Houry. Coïncidence? Je ne crois pas. Et vous allez me dire, Charline, il en manque une.
Bah, il en manque une.
Effectivement, Monsignor, il est l'or du numéro 1.
Toujours pas compris, Monique. Le but du jeu, c'est de faire bosser les autres, c'est pas bosser soi-même. À ton avis, pourquoi je me suis fait chier à trouver une idée géniale?
Jacques, dans I Feel Good, fonctionne à coup de pensée magique. Indécrottable loser, il est persuadé qu'il peut changer l'eau en Château Pétrus grâce à son bagout et sa baseline. Non, Alex, pas la ligne de base, la baseline, le slogan de son entreprise, culture, confiance en soi et oméga 3. I Feel Good n'est pas un feel-good movie. D'ailleurs, j'aimerais que le marketeur qui a déféqué ce terme dans notre quotidien lève la main pour que je puisse le pendre à un feel-bad Claude Boucher. Non, je ne vais pas au cinéma pour me feel-good, mais pour aller du grand sourire aux larmes. Michel, si tu nous écoutes. J'aime sortir du cinéma moins con que je n'y suis entré, ce qui n'est pas compliqué. Et c'est ce que j'ai aimé dans votre film bourré de punchline. Non. Hippo, pas la ligne de ponche, mais ces phrases qui percutent, pleines d'ironie et d'intelligence et qui offrent un regard acéré sur notre société. Votre personnage, Monique, fait face à la folie de son frère avec une humanité et un amour désarmant. Valeurs cardinales qui sont les seules à en avoir réellement de la valeur. Ce n'est pas de l'individu que viendra la solution, mais de groupes qui se respectent et s'organisent, parce que si l'on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires, nous ne sommes au fond que des foules sentimentales.
Ouais.
Avec soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles.
Je vous soupçonne de vouloir faire un karaoké.
Que les choses pas commerciales.
Merci Thomas Croisière. C'est bien vu, Yolande Moreau.
Ah,
validé.
C'est bien vu, oui. C'est très joli, le papier.
I feel good. Merci. Donc, ce sera en salle mercredi. On va aborder rapidement ce dernier sujet. Je pense qu'on a deux minutes pour parler des élus parisiens qui viennent de voter la création d'une stèle en hommage aux animaux morts lors de la Première Guerre mondiale. 11 millions d'équidés, 100 000 chiens, 200 000 pigeons. On met un petit bout de l'hommage quand même, rapidement.
Cheval, course, saut, galop, hennie, des millions de chevaux, ensevelis, les tripes à l'air, les yeux arrachés, des millions de chevaux, ensevelis.
Sexy sushi, même le rock punk électro s'empare du sujet, c'est fou. Yolande Moreau, est-ce que vous avez l'impression que vous, les animaux, sont les grands oubliés des guerres et qu'il voilà, faut les décorer, penser
question philosophique. On s'est dit ça,
c'est pour vous.
Alors, tout à coup, vous évoquez le sujet. Moi, j'ai quand même aussi. J'ai pensé à ma poule.
Ah.
Parce qu'elle est toujours sautée par le coq, elle n'a plus de plumes.
Ah.
Et je me dis.
Bah, la cause animale, quoi.
La cause animale.
Oui. Mais est-ce que vous aviez pas deux paons?
J'en ai eu, bouffé par le renard.
Ah, ils s'appelaient comment, les paons?
Eh bien, Philippe et Mathilde.
Il faut expliquer que c'est.
C'est le roi et la reine.
Le roi et la reine de Belgique.
C'est là où il y a comme une boucle.
On y revient.
C'est là où on rend hommage quand même aux animaux. Alors, à Bruxelles, Bruxelles a son monument depuis 1931. Vous aviez vu ça, Hippolyte?
Non, mais à Londres, il y a un très beau monument.
Ah oui?
Le même à Hyde Park.
Ah, ouais. D'accord.
À côté d'une boucherie, je crois.
Non, à Bruxelles, non, 1931, un monument pour les pigeons soldats. Donc, on est pionnier dans le.
À Londres, c'était pour le hamster de Churchill. Il s'est assis dessus, hein, en prenant une décision. Et c'est vrai que c'est mort de guerre.
Vous avez d'autres animaux que vous avez baptisés, comme ça, avec les rois, les reines, ou non?
Non, j'ai les moutons, mais ils n'arrêtent pas de copuler. Donc, moi, je n'arrive pas à suivre avec les noms.
Ne les comptez pas, vous allez vous endormir.
Bon, voilà. En tout cas, les élus s'inquiètent de pouvoir rendre hommage.
Pas n'importe
aux
quel
animaux
élu,
morts.
C'est comment il s'appelle? C'est Monsieur Lecoq. Mais oui, il y a un signe.
Le gars voulait être dans le journal de 17h17, en fait.
Yolande Moreau, vous seriez d'accord de jouer avec nous?
À la fin de l'émission, on propose un sketch à l'invité. Je vous donne un rôle qui va vous plaire.
Oui,
je pense que ça va vous plaire, ce rôle. Parce que Michel Houellebecq s'est marié ce week-end. C'est Carla Bruni qui a tweeté une photo du couple Houellebecq. Vous êtes Madame Houellebecq, Guillaume Meurice et Michel Houellebecq. Et Stéphane Bern a préparé une émission saga sur ce magnifique moment.
Bonjour et bienvenue dans Saga. Nous allons rêver ensemble en vivant de l'intérieur le mariage le plus glamour de cette année 2018. Michel Houellebecq a épousé Lysis. Et je vous propose de découvrir cette belle histoire en commençant par la demande en mariage.
Oui, Michel, tu veux me dire quelque chose?
Ah oui, Lysis, t'as pas une cigarette?
Ah ben non, je ne fume pas, Michel.
Ah ouais, tu fumes pas.
Michel. Michel, tu t'es endormi là, je crois.
Ah oui, ouais, je vais te demander, enfin, si. Enfin, c'est pas ça, si tu.
Vas-y, Michel, ouais. Crache ta valda.
Bien m'épouser.
Mais oui, Michel, bien sûr.
Okay, on peut fêter ça, un petit Ricard.
C'est okay. Magnifique, n'est-ce pas? Le glamour a envahi le pays lorsque les deux tourtereaux se sont dit oui, vivons ensemble la sublime cérémonie de notre écrivain adoré.
Lysis, voulez-vous prendre Michel pour époux?
Oui, je le veux.
Michel, voulez-vous prendre Lysis pour épouse?
Ah, c'est ça. Ouais.
Enfin, Michel, va un effort.
Michel? Mais il dort?
Aïe! Aïe!
Ah oui, l'amour, c'est aussi des petits coups dans les tibias. Ça va, Michel?
Ça va, oui. Oui. Oui.
Il a dit oui. Oui! C'est bon, il a dit oui! Oui.
Michel, vous avez dit oui?
Je veux bien une clope, oui, c'est one clope.
Non, pour le mariage.
Mariage de qui?
Oui, enfin, je veux dire, c'est que, enfin, moi, je sais, bon, moi, je vous déclare donc mari et femme.
Ouais, bah, on peut fêter ça. Alors, un petit rouge, peut-être.
Beaucoup d'émotions. La fête a continué dans une soirée extraordinaire durant laquelle Carla Bruni est venue féliciter nos deux amoureux.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais.
Oh, est-ce que quelqu'un veut un Lexomil?
Quelle merveilleuse ambiance, et nous pouvons aller un peu plus loin dans l'intimité de notre couple en nous rendant au cœur de leur amour lors de la nuit de noces.
Michel, reviens dans la chambre. Tu ne peux pas rester en caleçon sous le balcon. Oh, Michel, toi, tu sais me parler.
Pas foulé pour le dialogue, hein, c'est à base de
Vous êtes bien, Carla.
Vous êtes une Rolls-Royce.
Merci beaucoup Yolande Moreau, c'était un bonheur de passer cette heure avec vous.
Également.
Et c'est un bonheur aussi que de voir ce film I Feel Good de Gustave Kervern et Benoît Delépine qui se rend salle mercredi avec notamment Jean Dujardin puis tous les formidables acteurs, Joe Dahan, Lou Castel, Jean-Benoît Hugues, Jean-François Landon, Jeanne Abitnerova, Elsa Foucault et Marius Bertram. Allez, le mot de la fin à Yolande Moreau. Jean-Michel Blanquer, la mer a des tomates et des
pommes de terre
pour l'hiver.